Voilà, bonjour ou rebonjour à chacune et chacun. Je vous remercie de venir assister à la deuxième partie de cette journée, par cet après-midi ensoleillé et encore estival. Là, on va initier un nouveau format dans l'heure qui suit. On a conçu l'idée de faire une battle, ou en bon français, une disputatio, sur une question que les membres du groupe de préparation, qui sont Hugues Poltier et Philippe Clark, donc qui sont tous deux philosophes et membres du groupe vaudois. Et la question qu'ils vont se poser et avec laquelle ils vont peut-être s'opposer est la suivante, c'est: est-ce que la nation est un concept? Alors, c'est une discussion qu'ils ont déjà eue plusieurs fois, notamment en séance de préparation, encore tout à l'heure lorsque nous dînions. Alors, c'était pas, comment dirais-je, l'entraînement ou un exercice pour ce qui allait venir. À chaque fois, je crois que c'est des discussions différentes où ils amènent des points de vue différents. Donc maintenant, on va dire que c'est la troisième session, elle est en face de vous. C'est la finale, peut-être. Donc moi, je vais jouer le rôle d'arbitre. Je vais peut-être couper la parole, donner la parole à l'un et à l'autre, peut-être amortir les coups s'il y en a. L'idée étant aussi que vous puissiez participer, donc peut-être pas dans le premier quart d'heure, mais si quelqu'un a envie de s'intégrer dans la dispute ou d'y participer, tout le monde est le ou la bienvenue. Donc nous allons commencer, je crois que c'est Hugues qui va ouvrir les feux ou les hostilités. Moi je vais m'asseoir et je lui cède la parole.
Bien, nous avions intitulé sur le programme Battle philosophique. Nous devons concéder que c'est un exercice auquel nous ne sommes pas encore très expérimentés. Donc prenez cela comme un terrain d'exercice, un terrain d'apprentissage, comment se battre philosophiquement. La philosophie est un art du combat, mais on n'est pas encore suffisamment entraîné de notre côté. Alors, la question, est-ce que la nation est un concept? Les discussions qui ont déjà eu lieu ont déjà fait bouger passablement mes réflexions, donc elles portent l'influence des échanges qui ont eu lieu. Donc j'écarte tout de suite la question en disant non, la nation n'est pas un concept. Il y a un concept, possiblement, c'est celui de corps politique auquel il convient d'essayer de donner, au fond, sa consistance, ce à quoi je vais m'employer. Essentiellement à partir, c'est l'exercice auquel je vais me livrer, à partir de Spinoza et plus précisément son traité politique. J'imagine que vous le connaissez tous par cœur, donc ce sera juste une relecture abrégée d'un certain nombre de points de rappel. Alors je rappelle juste cette thèse d'entrée de Spinoza. La nature, dit Spinoza, ne crée pas de nation, elle crée des individus. Alors, ce qui peut déjà être curieux, c'est que nation est utilisée par Spinoza au XVIIe siècle, alors qu'en général, on s'accorde à penser la notion de nation plutôt à partir du XVIIIe et surtout XIXe siècle. Bon, parenthèse. Donc, mais si la nature ne crée pas de nation, mais des individus, cela signifie que les nations ou les corps politiques se créent dans l'histoire, se créent dans la contingence des aventures, des destinées, des rencontres, des agrégats accidentels, des heurts, des choses qui se font et se défont dans le cours de l'histoire. Deuxième proposition, ici je lis au fond la définition de l'imperium ou souveraineté. Selon Spinoza, ce droit que définit la puissance de la multitude, on l'appelle généralement imperium. Imperium ou souveraineté, donc Bernard Potra choisit de ne pas traduire imperium pour différentes raisons, je n'entre pas dans ces questions, mais ici il faut entendre l'équivalent français serait souveraineté. Donc ce qu'il faut juste entendre, c'est que l'imperium consiste en un droit qui lui-même n'est rien d'autre que la puissance de la multitude, qu'est-ce que c'est que cette puissance de la multitude ? C'est, au fond, le collectif en tant qu'il s'assemble, qui agrège la puissance de tous les individus qui le composent, non seulement l'agrège, mais voire la démultiplie, pour différentes raisons dans lesquelles il est trop long d'entrer. Et donc ce collectif devient une espèce de puissance agrégée, et cette puissance agrégée se concentre dans cette souveraineté qui est au fond le pouvoir ultime à partir duquel le collectif, sous certains aspects, seulement sous certains aspects, va agir sur lui-même. Bon, donc par multitude, il faut entendre multitude d'individus humains, évidemment. C'est, lorsqu'on entre dans le détail, c'est toujours une multitude déterminée. C'est pas une multitude quelconque, c'est une multitude de Suisses, d'Athéniens, de Français, etc. Évidemment, comme je l'ai déjà dit, donc cette multitude n'advient pas naturellement, elle est produit de l'histoire. Donc, ça veut dire aussi que la multitude est un s'assembler. Un se poser, c'est un processus de subjectivation politique par quoi, qui fait qu'on va se nommer, sarde, romain, vaudois, valaisan, lausannois, etc. Donc c'est dans ce processus de s'assembler qu'on va se donner un nom, en différence des autres corps politiques que l'on côtoie nécessairement, parce que il y a toujours plusieurs multitudes, il n'y en a jamais une seule. Hein, tout corps politique a un corps fini qui rencontre, en dehors de lui, d'autres corps politiques finis. On pourrait dire, et ici je reprends une expression de Lordon, au fond, l'impérium, ce n'est rien d'autre, l'impérium ou souveraineté, ce n'est rien d'autre que le faire consistance du corps politique. Ce par quoi un corps politique fait consistance, c'est-à-dire tient ensemble. Ce qui est important dans ce que j'ai voulu dire, c'est la notion de processus. C'est dire donc il n'y a pas de multitude qui existe avant de s'unifier. La multitude est le processus de son unification et elle pose des résultats aussi en dehors d'elle. Et le point crucial de toute cette affaire, mais sur lequel je reviendrai un peu plus tard, c'est que l'impérium concentre inévitablement dans ce moment de souveraineté un moment de contrainte à l'égard de tous ses membres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, nous dit Spinoza, de possibilité de penser à un impérium qui ne comprenne pas le moment de la contrainte. C'est-à-dire l'impérium, la souveraineté, c'est le moment de la position des règles et le moment de leur imposition vis-à-vis de ceux qui la transgresseraient, que ce soit par la sanction ou par d'autres choses, ceci est secondaire.
Hugues,
oui.
Est-ce que
non, ne m'interromps pas encore.
D'accord.
Pas encore. Donc, ce qui est bien, le rapport, donc l'impérium ne se définit pas par ses parties, mais par le rapport dans lequel elle fait tenir ses parties ensemble, que sont la multiplicité des individus qui composent la multitude. Ce qui est déterminant, donc ce ne sont pas les parties comme telles, c'est le rapport dans lequel les parties sont tenues les unes par rapport aux autres. Et ce rapport, c'est le commun. C'est le commun par autre, etc. Et à ce sujet, Spinoza ajoute, donc la multitude est conduite comme par une seule âme. Et celle-ci, cette conduite de la multitude comme par une seule âme, ne se fera pas sous la conduite de la raison, mais sous celle d'un affect commun, crainte commune. Donc ici, c'est une citation. Affect commun, crainte commune, espoir commun, impatience de venger quelques dommages subis en commun. Fin de la citation. Et cet affect commun n'est pas donné par la raison, et donc c'est une passion. Et en tant que c'est une passion, ça veut dire qu'elle va prendre la forme d'un imaginaire, d'un nom, d'une, etc. Le point crucial qu'il faut retenir, enfin, et qui, ce sur quoi il faudrait aller, mais on n'a pas le temps, c'est que les passions signifient la possibilité de la disconvenance entre les hommes. La possibilité de la disconvenance entre les hommes, c'est la possibilité du heurt, du conflit, de la bagarre, et que l'imperium est précisément cette institution qui sert à limiter le risque de la disconvenance. Enfin, les risques de la disconvenance. Il ne s'agit pas d'en finir avec la disconvenance, mais avec les effets mortels de la disconvenance. Je lis juste cette citation. « Si la nature humaine était ainsi faite que les hommes désirassent le plus ce qui leur est le plus utile, il ne serait besoin d'aucun art pour que règne concorde et loyauté. » Donc, si nous étions raisonnables, il n'y aurait pas besoin d'art, c'est-à-dire il n'y aurait pas besoin de la médiation étatique. La médiation étatique n'est nécessaire que parce que nous sommes livrés et aux passions dans notre agir, dans nos interactions les uns avec les autres. Comme il est manifeste que la nature humaine est constituée tout autrement, il est nécessaire qu'un État, imperium, soit institué de telle sorte que tous, gouvernants et gouvernés, fassent qu'ils le veuillent ou non, ce qui importe au salut commun. Je m'arrête là pour cette citation.
Ben, je peux intervenir là.
Non, pas encore.
On n'a pas défini la longueur des rounds.
Le point crucial, toute la difficulté, c'est donc tout ce qui a précédé a servi à déterminer la nécessité, que la multitude se constitue en corps politique, et deux, que celles-ci comprennent le moment de l'impérium, soit de la souveraineté. Et tout le problème, c'est l'usage possible, c'est-à-dire c'est l'appropriation possible de cette souveraineté par quelques-uns, parce qu'on ne peut jamais être tous souverains en même temps, c'est impossible. Ça veut dire qu'il y a toujours des acteurs qui vont détenir l'exercice de la souveraineté, et le risque tyrannique par excellence, c'est précisément que des individus s'approprient cette souveraineté. Et une fois qu'ils se la sont appropriés, la difficulté, c'est de revenir en arrière. Et donc, au fond, on pourrait penser la situation actuelle comme une certaine dépossession de notre souveraineté par ceux qui détiennent la souveraineté, avec cette question de, au fond, comment faire pour nous réapproprier cette souveraineté que nous avons bien dû céder pour son exercice, mais dont nous avons cédé plus que son exercice, nous avons cédé, au fond, son principe même, sans avoir au fond aujourd'hui de ressources pour, enfin, sans trouver, elles sont inventées, mais pour l'instant nous ne les avons pas trouvées. Enfin, nous ne les aurions pas trouvées, disons, pour nous réapproprier ce moment de souveraineté. Voilà, je m'arrête là. Excuse d'avoir été un peu long. Maintenant, je prends toutes les objections de mon ami Philippe.
Oui. Bon, c'est assez difficile de contredire Spinoza sur ce processus de subjectivisation ou de socialisation. Bon, j'aime pas trop la notion d'individu, j'aime pas trop la manière dont il part, c'est-à-dire il part d'un individu, et l'individu est créé par la nature, la nation n'est pas créée par la nature. Bon, je pense pas que on soit obligé de partir de cette forme-là pour tout de suite arriver dans l'existence de la multitude, et dans la mesure où la multitude c'est un ensemble de corps politiques différents, moi ça me va très très bien. Simplement, pour peut-être prolonger un petit peu, c'est que moi je vais poser la question du nous, parce que c'est un peu facile dans ce domaine de généralité de dire qui va décider le bien commun et qui va pas décider le bien commun. Et je pense qu'il y a chez Spinoza quelque chose que je réprouve très fondamentalement, c'est il y a un moment donné où la raison doit venir ordonner les affects, d'accord. Alors évidemment, il vous dira que les États ou les nations, c'est une collection, comme disait Hugues, d'affects qui s'entrechoquent, si vous voulez, et puis il faut bien trouver une manière de résoudre cette problématique-là. Mais la manière de résoudre cette problématique-là, ça va toujours passer pour ces penseurs du XVIIe siècle, et je pense pour tous jusqu'à maintenant, par une intervention de la raison qui se situe donc au-dessus, donc, pour utiliser les termes de Spinoza, c'est la connaissance des rapports. On disait que c'était les rapports, donc il faut bien, pour déterminer le bien commun, qu'on connaisse les rapports. D'accord, les rapports entre ces affects. Or, moi, je dis, il ne peut pas y avoir une opération de la raison qui serait, si vous voulez, l'identité ou l'égalité du nous. Le nous, c'est un ensemble de croyances, toujours. Il n'y a pas, à un moment donné, une faculté qui va pouvoir venir décrire ce que c'est que le bien commun. Donc autant je ne peux pas nier qu'il va y avoir une notion de souveraineté à un moment donné, autant je pense que cette notion de souveraineté, une fois qu'on l'a énoncée, ne dit toujours rien de ce qui va se passer. Donc je pense qu'on est dans là, et l'ordonnance de la raison, c'est-à-dire la connaissance des rapports, c'est-à-dire cette faculté qui serait supérieure, n'est-ce pas, aux affects, qui seraient supérieurs aux croyances. Moi, je n'y crois pas trop. Et je suis plutôt favorable à une approche empiriste, n'est-ce pas, qui ne pose plus du tout les questions, parce que, entre parenthèses, n'est-ce pas, poser les questions en termes de raison, c'est les poser en termes de vérité. Donc il y aurait une vérité, quelque part, du nous, qui serait, à un moment donné, constituée par who knows, mais qui utiliserait la raison. D'accord, et ce schéma-là, je le trouve absolument diabolique, dans la mesure où ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est non pas le rapport des choses entre eux, comme voudrait le dire Spinoza, mais le rapport des croyances entre elles. Au moment que vous dites que tout le monde croit et que personne ne sait rien, ce que je pense, vous arrivez à une question qui m'intéresse infiniment plus au niveau de cette constitution de la souveraineté, c'est qu'est-ce qui est légitime et qu'est-ce qui est illégitime. Hume vous dira que vous êtes très légitime de penser que l'eau qui boue aujourd'hui à 100 degrés boira demain à 100 degrés. Je vous ferai remarquer que derrière la pensée de Hume, il y a le fait que le passé ne détermine pas l'avenir. C'est quand même important, ça. Et donc, par contre, il dira que si vous venez me dire que Dieu existe, c'est illégitime. C'est-à-dire, ça n'a pas de consistance. Donc, on ne parle pas de la vérité, on ne parle pas de l'erreur, on n'est pas dans des schémas logiques, comme je pense que Spinoza est prisonnier de ces schémas logiques. On est dans une évaluation des types de consistance. Sera légitime, sera qu'il y a plus de consistance. La consistance, d'ailleurs, ne fait pas, si vous voulez, n'élimine pas la notion de croyance dans le terme de la croyance, c'est une intensité. Donc il va y avoir, ça va être une bataille d'intensité mais aussi de consistance, voilà. Et donc dans ce sens là je pense que cet échafaudage qui a l'air évidemment parfait dans sa géométrie, si vous voulez, ne nous renseigne pas du tout sur comment on va pouvoir élaborer quelque chose comme le bien commun. D'accord ? Ça, c'est ma première remarque.
Je peux répondre ?
Oui.
Je suis assez sensible sur ce que tu dis sur l'individu. Je pense qu'effectivement, il faudrait dire des atomes individuels en libre circulation, brownienne ou je ne sais pas quoi. Et puis, peut-être que là, le terme d'individu n'est pas très heureux ontologiquement de la part de Spinoza. Là-dessus, je serais assez d'accord de donner raison. Sur le reste, j'ai plus de difficultés. C'est-à-dire que le point, ce n'est pas la question des croyances. Quelque part, on s'en fout des croyances, mais c'est vraiment le cadet de nos soucis. Le problème d'une société quelconque, c'est celui d'un ajustement des puissances entre elles. Et à partir du moment où ce n'est pas la raison qui ordonne le principe, disons, d'agencement, de coagencement, de rencontre, de combinaison de ces puissances entre elles, eh bien, on va avoir fatalement une tendance tyrannico-despotique qui va se mettre à l'œuvre, où
un individu ou groupe d'individus, peu importe. Ensuite, comment il faut les désigner, ça c'est une autre paire de manches. À mesure qu'il acquiert de la puissance, acquiert de plus en plus la possibilité d'accroître sa puissance en asservissant, en continuant à asservir d'autres. Et c'est cette logique de la puissance qui rend capable d'asservir encore plus que, qu'il s'agit de prendre au sérieux. Si on, ça veut dire que la logique passionnelle, laissée à elle-même, produit de l'asservissement de certains par d'autres. Et ceci de manière absolument fatale. Raison pour laquelle, pour Spinoza, il convient d'en appeler à la raison. Et l'appel à la raison, c'est l'appel à la, disons, au non laisser faire des puissances privées qui peuvent faire comme elles veulent et accroître leur règne sur le, selon leur bon plaisir.
Hugues, j'ai une question. Elle est incarnée par qui ? Elle s'incarne comment, la raison ?
La raison, c'est l'exercice qui advient au terme de la cinquième partie de l'éthique. Avant, on n'y est pas. Enfin, elle est toujours à l'œuvre. Pour pouvoir écrire l'éthique, il a fallu qu'on soit déjà plus ou moins dedans. On a commencé à la mettre en œuvre, mais fondamentalement, elle ne s'atteint dans sa plénitude qu'au cinquième livre de l'éthique. C'est-à-dire au moment où on entre dans l'amour intellectuel de Dieu, où à travers notre intelligence, notre compréhension des choses, c'est-à-dire à travers nous, Dieu sème lui-même de cet amour infini qu'il a pour lui-même, qui n'est rien d'autre que la nature. Mais le point crucial, la raison, c'est la non-partialité. Je dirais, ça c'est quand même un élément...
Impossible, cas, impossible.
C'est un élément essentiel. Oui, mais c'est ça qui définit l'effort philosophique.
Vas-y Philippe, pourquoi c'est impossible ?
L'effort philosophico-politique se définit comme cet effort de constitution, d'une constitution qui serait... impartial, c'est-à-dire qui satisferait à la fois l'ensemble et chacune de ses parties sans aucune discrimination, sans que rien ne puisse s'expliquer dans les attributs des uns et des autres par le simple fait que l'un est plus puissant que l'autre.
Mais alors, Hugues, c'est qui la raison ? C'est le philosophe, alors ?
Effectivement, alors, si tu m'interpelles comme ça, effectivement, le point de la société spinoziste, et c'est ça probablement la difficulté du modèle de Spinoza dans le TP, c'est qu'au fond, il n'est besoin que d'un sujet rationnel ou parfaitement raisonnable. C'est l'auteur de la Constitution. Si la Constitution, qu'elle soit monarchique, aristocratique ou démocratique, bon, la démocratique est inachevée, mais les monarchiques et aristocratiques sont pas mal avancées, ils sont pas mal élaborés dans le TP. Il suffit que celui qui élabore la Constitution l'élabore de façon parfaitement bien pensée, tienne absolument compte de la dynamique naturelle des passions et qu'il incorpore dans son modèle cette dynamique naturelle des passions de façon à ce qu'un individu, en voulant satisfaire sa persévérance dans l'être, c'est-à-dire le mouvement spontané de son conatus, c'est-à-dire qu'un individu, en faisant cela, satisfasse en même temps le besoin de persévérance du corps politique, et pas juste le sien. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il poursuit son propre intérêt, il réalise l'intérêt commun, et réalisant l'intérêt commun et renforcé dans son agir, parce qu'il va être récompensé, il va être honoré, et donc il est renforcé dans son comportement, et il va encore ainsi continuer dans cette dynamique-là.
D'accord.
Donc c'est la logique passionnelle.
Philippe, tu aimerais réagir ?
Attends, juste cette phrase,
oui.
C'est la logique passionnelle instituée par la Constitution qui en assure la stabilité. Les sujets n'ont pas besoin d'être rationnels.
Philippe, tu aimerais réagir ? J'ai vu qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aimerait réagir, alors je ne sais pas.
Ce que j'aimerais dire ici, c'est que derrière cette cette réflexion. Il y a une notion que je trouve dont on devrait se débarrasser une bonne fois pour toutes, c'est celle de la cité heureuse. Donc évidemment, si vous imaginiez un sujet qui pourrait, en regardant qui il est, c'est-à-dire son conatus, décrire tous les éléments qui pourraient le rendre joyeux, évidemment, mais ça c'est, je veux dire, on n'est plus du tout sur cette planète. C'est-à-dire que moi je pense qu'il faut, il y a un concept que j'aime bien chez les féministes américaines qui en anglais se dit staying with the trouble. C'est-à-dire on n'imagine même pas l'expérience de pensée qui consisterait à dire oui, on pourrait, dans le meilleur des cas, déterminer, schématiser, même décrire dans les détails les conditions qu'il faudrait remplir pour que nous soyons heureux, ou que pour que le pouvoir de l'impérium puisse être autre chose qu'il est. Et je pense que ça, ce sera mon deuxième point d'ailleurs. Je pense qu'il n'est pas simplement une contrainte. Et je pense que dans la notion de puissance de Spinoza, il n'y a pas simplement l'affrontement. Il y a la sympathie, il y a la tendresse, il y a l'amitié, il y a des vertus, si vous voulez, qui font partie. Donc, voilà. Alors, si je devais revenir et accepter, ce que j'accepte avec très grande difficulté, cette notion de cité idéale, qui pourrait être designée littéralement, comme on design un logiciel par un esprit, voilà. Bon, je pense que ça pose un problème. Et d'ailleurs, ça pose le problème que ça nous donne l'illusion qu'on peut s'en sortir. Et ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est qu'on ne s'en sortira pas. Donc, il va maintenant y avoir, en effet, des mouvements. Il va y avoir des conflits. Et j'aimerais bien revenir, si j'en ai l'occasion, sur une figure que j'aimerais bien définir, qui est celle de l'ennemi. Mais on verra si on arrivera jusque-là.
Moi, je me tais maintenant. C'est bon, tu peux y aller.
Non, mais je n'ai pas envie de parler. J'ai envie de dialoguer. Faut pas faire.
Il y a d'autres adversaires.
Ah ben, je ne sais pas, je les cherche du regard. Mais en tout cas, cette notion qu'on peut s'en sortir et qu'on peut faire autre chose que staying with the trouble, je pense que c'est une illusion dangereuse, c'est-à-dire, dans les termes jungiens, une croyance illégitime. Mais beaucoup de gens pensent, et je pense que la feuille blanche, le schéma, et de nouveau, vous voyez bien comment la raison fonctionne, elle vous donne l'illusion, mais c'est une illusion, moi je trouve, diabolique, que vous pouvez, en analysant les parties, en essayant de vous prendre, de vous prendre pour une métonymie des autres, de définir quelque chose, et de définir quelque chose qui serait valable pour tout le monde en plus, d'accord ? Or, si je devais décrire la nation, je ne suis pas très attaché au terme d'ailleurs de la nation, mais je suis attaché au terme de compost. Et ce terme de compost, je l'aime bien. Les sociétés ne font pas simplement ne créent pas simplement, ne produisent pas un souverain. Ils créent d'abord un compost. Et ce compost, si vous me demandiez de quoi il est composé, je dirais de langue, de religion, de technique. On ne parle jamais de technologie comme si ça n'existait pas.
Tout le monde en parle.
Elle n'est pas
comprise dans le propos.
Nommons-la.
Ça fait partie de la puissance. Les techniques, c'est des puissances.
D'accord. Ok. Alors, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi ?
C'est pas le problème. L'alternative est très simple. C'est ou bien la domination privée de quelques-uns, ou bien le règne de la cité idéale, comme tu dis. On ne peut pas sortir de cette alternative.
Mais oui, on peut sortir de cette alternative.
Mais non, je suis navré. Regarde la situation actuelle. La situation actuelle, c'est la domination privée d'un certain nombre d'acteurs. Jean-François Bayard a parlé de l'expression de privatisation de l'État, ça me permet de me réconcilier avec l'idée que les États ne s'affaiblissent pas, simplement ils se privatisent. Ce qui a disparu dans l'État, c'est la notion de service public, c'est la notion qu'il est un agent au service de l'intérêt public. Non, il est juste, effectivement, il est juste possédé par des agences privées qui désormais en disposent selon leur bon plaisir et leur bon plaisir d'accroître leur propre puissance privée de domination aux dépens du grand nombre. Donc effectivement, l'alternative est celle-ci, c'est ou bien la domination privée de quelques-uns, ou bien Alors ensuite, on peut discuter sur la forme de la cité idéale. C'est ou bien c'est la cité gouvernée selon la raison. Il n'y a pas trois solutions. Je suis navré, il n'y en a pas trois.
Alors, il y a des réactions dans le public, allez-y spontanément.
Donc, non, Hugues, je ne comprends pas pourquoi tu as besoin de revenir à Spinoza pour penser une cité dans laquelle le pouvoir n'appartient pas à quelques-uns. Toute la tradition républicaine essaye de montrer cela, tu peux le voir en Grèce ancienne, dans la Rome républicaine, chez Machiavel, chez Guichardin, sous une forme très différente chez l'un et chez l'autre, chez Rousseau éventuellement, puis ensuite chez quelques autres auteurs postérieurs. Qui ne vont jamais parler de vérité politique. C'est jamais la raison qui gouverne, jamais, jamais. Il y a une idée de bonne cité, de cité libre, de cité de bien commun, d'intérêt général, même si le terme n'apparaît pas, mais c'est un peu ça qui est en jeu. Mais en aucun cas, ni la raison ni la vérité ne sont des concepts politiques qui sont importants pour eux. Et de l'autre côté, chez les libéraux non plus, ce que tu disais, il faut des pouvoirs qui se contrebalancent. Je pense à Montesquieu.
J'ai pas dit ça.
Tu disais que les puissances devaient se contrebalancer. C'est-à-dire, si on laisse la puissance à quelques-uns, ils vont en avoir de plus en plus. C'est exactement ce que dit Montesquieu dans l'Esprit des lois. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Et chez Montesquieu non plus, il n'y a absolument pas de référence ni à la vérité ni à la raison. Donc je comprends pas ce que tu gagnes en allant chercher chez Spinoza cette idée de raison pour dire que le pouvoir doit être diffusé, si tu veux, d'une certaine manière. Et puis j'ajoute une autre question, c'est que je ne vois absolument pas ce que ça a à voir avec la nation.
En effet.
Ça, c'est une autre chose. Donc, le débat me semble un peu mal posé. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on parle de...
Là, on parle d'autre chose. Voilà, en tout cas, moi, je parle d'autre chose. Voilà,
tu as fait une équivalence entre, je sais pas, nation et corps politique.
Non, je l'ai mis de côté.
D'accord. Oui, mais alors...
C'est une imposture. J'en ai parfaitement conscience, mais je l'ai mis de côté. Bon, pour répondre à ta question, pourquoi Spinoza? Pourquoi la rationalité? Alors, pour moi, Spinoza est celui qui pense le plus loin, la logique des corps politiques. Je ne connais pas de... Il faut vraiment lire le TP pour se rendre compte de la profondeur à laquelle Spinoza pense la notion de corps politique, dont je n'ai pu donner qu'une extrêmement vague, très schématique, très floue idée dans ma présentation. Je pense que, vraiment... Les libéraux n'ont jamais rien compris au corps politique, jamais rien. Locke, je veux dire, je vois pas de corps politique, je suis navré, il n'y a rien. Hobbes, non, c'est pas un corps politique, c'est des atomes qui s'entrechoquent, et puis tout à coup, pouf, il y a un souverain qui sort, comme d'un chapeau, on ne sait pas très bien pourquoi. Non, il n'a rien compris. Les libéraux, de toute façon, au fond, la seule chose qui les intéresse, c'est la propriété. Propriété, propriété, propriété. Il n'y a pas de corps, il y a des propriétaires, il n'y a pas de corps. En tout cas, je veux dire, les libéraux qui font référence principalement, bon, ici c'est la tradition lockienne jusqu'à Hayek, évidemment, à l'exclusion de, enfin, où j'inclus pas ce que j'appelle moi les libéraux idéaux, Rawls typiquement, parce que ça n'a aucune pertinence pratique. Jamais personne n'a appliqué les principes de Rawls. Tandis que Locke, au contraire, c'est une théorie qui s'applique tous les jours. Hayek en est disons, l'ultime relais théorico-idéologique qui fait référence aujourd'hui. Je pense pas qu'on l'applique, on l'a jamais appliqué. Le point, c'est que Rawls, c'est inapplicable. C'est en principe inapplicable parce qu'il n'y a pas de théorie des passions, précisément. Il ne sait pas ce que c'est une passion. Donc il ne peut rien faire, il ne peut pas construire un corps politique sans passion. Il est obligé de se donner des sujets rationnels avant pour pouvoir construire son corps politique. Ce qui est, au fond, je me donne la solution avant de me donner pour pouvoir construire ma réponse. Tandis que le point de Spinoza, c'est on ne sort jamais de la passion.
Très bien.
C'est visible, hein, d'ailleurs. Pardon ?
Sauf
potentiellement... Le philosophe, l'exception exceptionnelle quasiment impossible,
qui est effectivement le philosophe législateur, parce qu'il a compris la dynamique des passions, il peut penser un modèle dans lequel la dynamique des passions convient plutôt que disconvient. C'est-à-dire, c'est vraiment ce point central. Les hommes, en tant qu'ils sont gouvernés par les passions, peuvent disconvenir. Et disconvenir, il faut l'entendre dans un sens fort. On peut se taper sur la gueule.
Hugues, je dois t'interrompre, il y a une question de Gab.
Oui, un peu pour peut-être prolonger la question historique d'Antoine, et puis qui est, à mon avis, une des questions qui est à la base du Staying with the Trouble de Philippe. Qu'est-ce qu'il y a dans l'histoire humaine, ou des sociétés humaines, ou dans l'anthropologie des sociétés humaines, qui peut nous laisser croire que la raison soit autre chose qu'une tentative, pour reprendre tes termes, tyrannico-despotique?
Rien. Ah. Ma réponse est rien. Peut-être Spinoza.
Alors,
sauf peut-être Spinoza, mais c'est bien peu.
Est-ce que tu veux parler
Très bien, donc voilà. Donc,
Spontanément, je vais du côté de Patrick, mais je reviens à Spinoza. Je m'appelle
Philippe.
Philippe Clark, hein.
Ouais,
c'est pour ça.
Filippo en italien.
Filippo, buongiorno. Non, mais il y a un point chez Spinoza, puis après je lui tords le cou, hélas. Mais il y a un point sur lequel je ne veux pas transiger non plus, c'est la notion d'individu.
Ouais.
Il faudrait parler de la substantia dans l'éthique. Et chez Agamben, ça donne la singularité. Donc la question du corps est décisive. Et on ne sait pas ce que c'est. Quand tu as intervenu en disant qu'il n'y a pas de corps chez Locke, etc., ça m'a touché. Ce qui me semble passionnant au niveau de l'ontologie politique, mais l'ontologie du cours de Spinoza, c'est la notion de corps et de singularité. Il y a de l'individuation.
Oui, il y a de l'individuation.
Il n'y a pas d'individuation. Il y a des individus, des individus. Et question que je vous pose, mais pour une autre fois, l'habeas corpus, il est passé où dans non, mais le corpus...
Qu'est-ce que tu veux dire par l'habeas corpus? La protection des corps?
Oui, c'est ça. Mais ben justement, on a oublié les corps. Et on a oublié la réalité concrète. C'est ça qui m'intéresse chez Spinoza. Non, mais on ne l'a pas oublié, on la pratique, hélas.
Ouais.
Mais alors, bon, ça, c'est le premier point. Deuxième point, Spinoza est juif.
Non.
Il n'a pas été, il est excommunié, mais tu vois.
Il est excommunié.
Oui, je sais, mais ça ne veut rien dire, tu permets. Oui, ben, ça lui fait des problèmes personnels, mais il vient de cette tradition. Comme Maïmonide, Spinoza, fausse compagnie à la grande tradition du judaïsme. C'est le Talmud, mais c'est en tout cas pas la Torah, c'est Kabbalah. Alors, moi j'ai un problème, c'est le théologico-politique chez Spinoza, c'est la question que je te pose, Hugues. Je suis d'accord que la vraie question, c'est les singularités, les corps et leur agencement. Donc le programme, la question que tu poses, pour moi, elle est désormais fondamentale. Et hélas, le désespoir dansant de mes amis postmodernes qui disent « voilà, on est dans la merde, on va y rester, il faut se débrouiller », moi je suis un peu plus grave. On a des corps qui souffrent, et c'est des singularités nommables, hein, des prénoms, des noms, des corps qui sont en train de mourir en ce moment à Alep, par exemple. C'est pas drôle. Donc la question, elle est là. Mais ma réserve, c'est au niveau du théologico-politique un enthousiasme, c'est-à-dire un messianisme latent. Spinoza, et là, les critiques, elles tombent. Qui va effectuer cette raison? Quel est le législateur? Tu dis personne. Mais alors, dans ce cas-là, on s'en fout de Spinoza. C'est de la branlette intellectuelle.
Non, le législateur.
Donc, oui, il n'existe jamais, ou bien c'est un tyran.
Si.
Donc la vraie question, non. Et alors là, c'est rédhibitoire pour moi, puis je retombe dans le désespoir, ça n'arrive jamais.
Non, en effet.
Cette justice.
Ça
parce que
jamais.
Chez Spinoza, c'est messianisant, c'est-à-dire philosophisant, c'est-à-dire rationalisant.
Pas seulement.
Il faut une déconstruction, au sens de Derrida, au minimum, sur ce messianisme théologico-politique qui, depuis la nuit des temps, depuis la folie de Platon et puis ses successeurs, depuis Alexandre le Grand, nous foutent dans la merde. On en a marre des philosophes rois et en particulier d'Hayek. Et je suis pas sûr que Spinoza ici nous aide beaucoup, parce qu'il continue de fantasmer un législateur qui n'arrivera jamais, c'est-à-dire le Messie. On est en Kabbalah plutôt pour moi, c'est-à-dire plutôt cet agencement des corps souffrants qui savent pas la vérité. Tu l'as très bien dit. On n'en sait rien, c'est plutôt sceptique, etc. Et on cherche une rationalité qui est commune et un législateur qui est participatif, collaboratif au niveau de l'ontologie. Donc au niveau de l'ontologie de Spinoza, je n'ai pas beaucoup de soucis, mais quand il switch sur la question politique, là je suis perdu. Et tu ne m'as pas convaincu. Parce que c'est extrêmement déprimant. T'as raison, on attend une législation qui agence les corps, parce, tenant compte des passions. On l'attend, ah ouais. Mais on attend Godot, merci.
Exactement, on attend Godot, ouais, parce qu'on est des êtres passionnels.
Mais il faut arrêter d'attendre Godot.
Alors, juste ajouter ça. S'il y a un penseur dont Spinoza retient l'enseignement, c'est Machiavel. Qu'est-ce qu'il retient de Machiavel essentiellement ? C'est extrêmement simple. Il retient, on est toujours déjà dans un rapport de puissance.
On est toujours déjà dans un rapport d'amour, on est toujours déjà dans un rapport de sympathie, on est toujours d'accord dans un rapport de colère.
Non, on est toujours déjà dans un rapport de pouvoir, c'est-à-dire il y a quelqu'un aveuglé par la gorgone
du pouvoir, évidemment, ton monde se rétrécit.
Mais on sort du sujet.
Et donc ta législation va être elle-même rétrécie. Elle va consister à essayer de limiter les choses, ce qui est très bien d'ailleurs, mais elle pourrait aller bien plus loin. Quand on parle du lien commun, on pourrait imaginer toutes sortes de ramifications constitutionnelles qui n'ont rien à voir avec l'assise d'un pouvoir ou la défense d'un pouvoir. Et moi, aujourd'hui, vous n'étiez pas là, certains d'entre vous, c'est dommage, parce qu'on parlait des identités, n'est-ce pas, et on disait... Et voilà, tout le monde est focalisé sur une espèce de figure de retour régressive vers des choses qu'il faudrait considérer comme vraies, non pas comme vraies, mais comme réelles. C'est-à-dire que si j'ai tout d'un coup l'impression qu'être suisse, c'est manger du chocolat, aller à la Migros et avoir une vache, ça peut être détestable pour certains, mais c'est réel pour moi.
J'aimerais juste ajouter une réponse à Antoine. Je pense que la raison chez Spinoza, elle est très proche du logon d'Idonai chez Racastoriadis. Voilà, je m'arrête là-dessus. Mais bien sûr que c'est collectif. Mais le point, c'est qu'il faut bien ce point de fuite, si tu veux, du philosophique ou du rationnel ou du raisonnable, pour qu'on ait une chance d'organiser une société, disons. Qui ne soit pas livré à la domination de quelques-uns. C'est ça, vraiment, le souci de Spinoza. Ensuite, oui, c'est collectif, mais en même temps, le risque constant qu'on a, c'est que même entre gens livrés au logon d'Idonai, on se tape sur la gueule pour des raisons passionnelles, parce qu'on veut être meilleur que l'autre, on veut avoir raison, on veut être plus fort, on veut être plus aimé, on veut, etc. etc. Et c'est ça le piège de la passion. En tout. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas pouvoir argumenter de façon passionnée, mais il ne faudrait pas que ce soit des arguments de type... Enfin, juste des soucis égotiques qui viennent commander le propos. Bon, je m'arrête.
Il y a une réaction... Oui, c'est pour poursuivre sur deux points. D'abord sur les individus, sur l'individu, sur l'atome individuel. Il me semble qu'il y a toujours des individus et il y a toujours déjà du social. L'homme est naturellement animal social, dit Spinoza. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'imitation des affects. C'est-à-dire que tout individu est toujours déjà lié à d'autres individus. Donc partir de l'individu, c'est pas du tout atomisé. Partir de l'individu, c'est toujours déjà partir du collectif. On a toujours déjà des troupeaux qui s'aiment, donc qui se haïssent. Qui s'aiment, donc qui se haïssent. C'est ça la question point, des ouais. passions. C'est pas qu'il y a de l'amour d'une part, vachement bien, on s'embrasse, et puis d'autre part, de la haine, on se tape dessus. Non. L'amour passionnel engendre la haine, parce que l'amour passionnel est désir de possession, tout simplement. Je t'aime, donc je te haïrai. Je t'aime, donc je te hais. Enfin, les deux sont absolument corrélés. C'est ça la question de la passion. C'est la corrélation des affects d'amour et des affects de haine. Et le problème que Spinoza pose, c'est celui du passage, de la conversion... de passion en action. C'est ça le point de difficulté. Et qui peut opérer ce passage ? Individuellement, on peut l'apercevoir. Collectivement, c'est une autre affaire. Deuxième point, me semble-t-il. J'entends parfois un Spinoza qui a l'air d'être converti au platonisme, son ennemi principal. Donc je ne comprends plus bien. Il faut prendre au sérieux le premier paragraphe du TP. Si on veut comprendre de la politique, c'est pas en lisant de la philosophie qu'on le fera, c'est en ayant
en faisant comme Machiavel. C'est-à-dire que Spinoza est un machiavélien. C'est un machiavélien plus démocrate que républicain. C'est là le point peut-être de divergence avec ce que disait Antoine, que j'aurais, ou en tout cas d'écart par rapport à la tradition républicaine. C'est un démocratisme, et de ce point de vue, c'est pas du tout quelqu'un qui veut mettre la raison au pouvoir. Pour Spinoza, c'est du moralisme, c'est de la théologie. C'est de la catastrophe politique. Vraiment, le premier paragraphe du TP me paraît quelque chose d'absolument crucial.
Oui, mais enfin, il y a quand même la notion de droit hein, dans l'établissement de l'Imperium. Et le droit, si aussi, alors la question que je vous pose, c'est quelle est l'origine du droit pour Spinoza ? Parce que si vous allez me dire la raison et l'universalité de la raison...
C'est la délibération collective, le droit c'est l'Imperium.
Sous quel mode ?
Le droit, de ce point de vue, oui, ça ressemble à un positivisme juridique.
Gérard, comment est-ce qu'on pense l'avènement de la constitution, c'est-à-dire la constitution qui convient à une multitude libre dans le TP, c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée la constitution monarchique qui est décrite dans le TP autrement que par l'idée qu'il y a quand même une constitution monarchique qui est meilleure qu'une autre. Alors, et puis en vertu de quoi est-ce qu'on pense qu'elle est meilleure qu'une autre ?
Ce qui me paraît important dans le TP, ce que j'y vois, c'est l'analyse rationnelle d'idéal type. La monarchie idéal type, ce qu'on appelle les régimes réformés.
Mais que Spinoza dit bien qu'il convient à une multitude libre.
Absolument.
Et ça, c'est quand même un critère qui veut dire qu'on n'est pas livré aux passions. Ça veut dire qu'il y a bien la raison qui intervient dans l'élaboration de ces modèles. C'est pas juste.
Dans l'élaboration des modèles, tout à fait, oui, je suis d'accord. Je suis là, de ce point de vue, je crois que je reviens sur la question de la démocratie. Qu'est-ce que les régimes réformés, les trois ou les deux, et l'embryon du troisième, qu'est-ce que ces régimes réformés ? Ce sont des instruments construits par la raison, non pour être imposés à toute nation. Ça n'a, de ce point de vue chez Spinoza, strictement aucun sens. Okay. Il y a effectivement quelque chose comme un nationalisme. Dire que l'État mosaïque, c'est le meilleur des États possibles pour les Hébreux tels qu'ils sont à la sortie d'Égypte, c'est, une fois qu'on a dit ça, on a refusé l'idée d'un modèle universel de politique. Et on est anti-platonicien. C'est un État, l'État mosaïque est un État théologique, et c'est un État qui, pour les Hébreux tels qu'ils sont, est l'État parfait.
Mais
ça ne veut pas dire est l'État parfait.
J'insiste que le TP n'est pas le TTP.
Absolument.
Le TP pose la question du meilleur gouvernement, de la meilleure constitution, ce qui n'est pas la question du TTP.
Pour aller vite, parce que je ne veux pas...
Mais je défends mon os, entre guillemets. C'est-à-dire ma lecture de Spinoza.
Il me semble que la question que Spinoza pose, c'est au fond la question du démocratique. Le meilleur État, ce sera toujours celui qui réalise au mieux la puissance du collectif, c'est-à-dire qui sera le plus démocratique possible. Qu'est-ce que c'est que la bonne monarchie ? C'est celle qui n'est pas gouvernée par un roi. Qu'est-ce que c'est que la bonne aristocratie ? C'est celle qui n'est pas gouvernée que par les aristocrates. Donc la question, c'est comment impulser du démocratique ? Pourquoi impulser du démocratique ? Non pas parce que la démocratie, c'est vachement bien, mais parce que c'est le problème de l'unité de la puissance collective. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'unité de la puissance collective, s'il n'y a pas de puissance collective, il y a guerre civile potentielle.
Merci, je vois qu'il y a une réaction devant. Je propose qu'on vous donne la parole. Et puis après, comme on s'est quand même fixé une contrainte, c'était...
Je voudrais poser une question à Hugues à propos de la nation.
Christophe, s'il te plaît. Oui. S'est donné une contrainte. La contrainte, c'était de parler, de répondre à la question est-ce que la nation est un concept ? Ce serait bien que...
Oui, ben
c'est en tout cas qu'on essaye d'y répondre, et puis qu'on rebondisse un petit peu. Alors,
on peut répondre à ça.
Non, mais...
C'est la question à Hugues, après.
Il y a une dame qui a
question. Je l'avais demandé aussi.
Pour être courtois.
Mais je l'avais demandé.
Alors vas-y.
Vas-y, mais assez bref.
Je serai très bref. Quand Hugues nous dit que la passion prend en fait une place politique déterminante par rapport à l'individuation, je crois qu'il est au plus près de la notion de nation et qu'il faut rétablir la nation à sa place, c'est-à-dire c'est une passion. Et il faut que le philosophe descende dans la vie affective, c'est ce que dit Philippe, s'il veut pouvoir faire de la politique. Il ne pourra pas le faire à partir de la raison. Ça ne veut pas dire que le commentateur politique ou que le philosophe politique ne pourra pas juger que telle ou telle chose est vraie. Mais il y a quelque chose de machiavélien dans le fait de dire « la nation, c'est une passion, on peut en traiter que sur le mode affectif, on peut intervenir qu'en infligeant en donnant des affects aux autres ou en subissant soi-même des affects. » Et moi, je pense que c'est la place juste de la nation dans, non seulement dans Spinoza, mais dans la philosophie moderne. Ou bien alors, vous pensez que les nations sont des créations naturelles, comme Aristote. Mais si vous pensez qu'il n'y a que l'individu qui est naturel et qui est rationnel, alors il faut donner sa place aux passions. Et c'est assez bizarre que la philosophie moderne soit la plus post-moderne.
Alors, la nation en tant que passion, pas de doute. Il faudrait raffiner, mais pas de doute. C'est-à-dire, c'est effectivement, c'est un rassemblement autour d'un imaginaire commun. Point, c'est tout. C'est rien d'autre, fondamentalement. Et donc, d'affect, oui, affect commun. Affect commun qui produit lui-même tout plein d'autres affects, avec des jeux d'entre-affect entre les individus qui y participent, etc. Ça, il n'y a aucun problème. La question de Spinoza, c'est que, enfin, en tout cas, dans le TP, il ne s'en satisfait pas. Il ne se satisfait pas de cette disons, lecture. Donc, nation-centré de la politique, il cherche le meilleur, et il cherche le meilleur avec les outils de la raison, en sachant que, de toute façon, ce ne peut pas être le cas que toute la multitude devienne raisonnable. Ça, c'est le point de départ. C'est pas possible d'imaginer qu'on devienne un jour tous raisonnables. Je m'arrête. Ça suffit ? C'est bon, là ?
Alors moi, ma question était très simple, c'est celle d'une néophyte, mais vous l'avez rappelé très justement, on cherche vraiment, nous, à savoir si la nation est un concept. Donc on aimerait bien avoir vos deux réponses, peut-être un peu plus ciblées. Et en particulier, bon, Philippe avait abordé quelques notions qui étaient très intéressantes, me semble-t-il, et puis on qui n'a peut-être pas pu aller plus loin. Alors voilà, je voulais juste savoir si on pouvait...
Moi, je donnerai la réponse de Gérard Bras, qui me corrigera si je commets trop de fautes. La nation n'est pas un concept, elle est une notion qui comprend inévitablement et de manière non déterminable le renvoi de l'idée de peuple ethnos à peuple organisé et de peuple organisé à peuple ethnos. Et comme il est impossible de départager le rôle de l'un et de l'autre dans l'idée de nation, en un sens flou, ça veut dire qu'on ne peut pas arrêter la nation en concept. On a toujours quelque chose qui est essentiellement instable. On ne peut pas comprendre, en effet, une nation sans penser à un peuple qui s'organise, et on ne peut pas penser une nation sans penser à un système d'institutions au travers duquel ce peuple est organisé. Et puis ces deux choses ne cessent de renvoyer l'une à l'autre sans qu'on puisse les stabiliser. Alors, peut-être Gérard donnerait une meilleure formulation. Je l'ai lu chez lui, elle me satisfait pleinement, et je me contente ici de la répéter sous sa surveillance.
Philippe ? Alors, pour exactement les mêmes raisons, je pense que c'est un concept. C'est-à-dire un concept, c'est quelque chose qui a des composantes, c'est pas quelque chose de simple. Un concept, c'est pas un argument, c'est une fabrique qui donne du sens et qui vous permet de construire quelque chose. Donc dans la mesure, je suis complètement indifférent au nombre de composantes de la nation, si ça me donne la possibilité de fabriquer quelque chose, ça m'intéresse, c'est un concept. Donc pour moi, c'est un concept parce que ça me donne la possibilité de fabriquer quelque chose. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que ça me donne comme possibilité de fabriquer ? Ça me permet de fabriquer mon autre concept de compost, justement. Parce que je ne vois pas ces choses-là analytiquement opposées. C'est-à-dire qu'il faudrait faire un choix ou d'un autre. Non, je vois ça avec des territoires. Il n'y a pas que simplement le peuple ou le droit. Il y a les paysages, il y a les langues, il y a les religions, pas mal de trucs. L'intérêt avec cette notion de compost et de la nation qui s'opposerait, alors qui serait donc capable, hein, donc de produire des corps politiques.
Donc, contrairement à Spinoza, je pense que c'est la nation qui peut engendrer la création de corps politiques différents, d'accord. Mais cette notion de compos nous donne une capacité de repenser l'impérium, pas simplement pour le pouvoir, ce qu'il est d'ailleurs, indubitablement, mais pour le soin. On peut prendre soin de son compost. Et c'est peut-être aussi une des dimensions de ce qui s'appelle le bien commun et de une des dimensions qui s'appelle le vivre ensemble, si vous voulez. Donc, introduire, moi ce qui m'intéresse dans le concept de nation, mais si vous voulez changer de mot, ça m'est égal. Je pense que c'est un concept parce que je pense que c'est quelque chose avec lequel on peut fabriquer des choses. Si on ne peut pas fabriquer des choses, on l'abandonne tout de suite. Moi, je fabrique mon compost avec cette notion-là. Et ce compost me donne la possibilité de penser à autre chose que le rapport de pouvoir qui existe, je le répète, mais qui, par exemple, me permet de penser du soin, par exemple. Comment prendre soin de son compost ? Ça, c'est une approche de jardinier. C'est une approche de. Alors vous me direz, le jardinier, c'est un prolétaire. Évidemment, c'est pas lui qui a la maison, etc. Ce qui est vrai. Et je pense qu'il faut une justice sociale. Je pense qu'il y a des problèmes dans le travail. Je pense qu'il y a d'autres problèmes ailleurs. Mais je pense que, au fond, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on peut imaginer. Et c'est ce que je ressens dans la fragilisation de l'État-nation. Donc qui est véritablement qui a été pensé sous les formes de la contrainte, son érosion est intéressante dans ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on essaie de créer maintenant d'autres identités à travers d'autres territoires qui nous permettraient de peut-être ne pas considérer le pouvoir comme étant le point d'aveuglement sur lequel on doit tout miser, quoi. Alors je pense à des territoires que je connaissais pas avant ce matin, qui sont les bioterritoires. Vous savez qu'il y a aux États-Unis, au Canada, il y a des Canadiens et des Américains qui commencent à refuser les frontières américaines et canadiennes. Ils disent non, il y a des lacs là-bas, il y a des forêts là-bas, tout ça fait partie d'un écosystème. On appartient dans cet écosystème. Et donc, vous voyez bien que dans la constitution de ces espaces nouveaux, il n'y a plus la notion nécessairement, la réflexion sur la démocratie et la limite du pouvoir, mais il y a sur comment... La question principale, c'est comment conserver notre environnement, comment se situer dans cet environnement et comment le protéger. Je pense que c'est des choses assez intéressantes. Je pense qu'il y a aujourd'hui, quelque part... Une première fissure dans ce que moi je considère être l'absolutisme des Lumières. Je crois qu'on arrive finalement à mettre une brèche dans ce qui semblait universel, dans ce qui semblait intemporel, dans ce qui semblait installé une fois pour toutes et qui nous empêchait non seulement de penser la diversité, parce qu'on pensait toujours la diversité en fonction d'unité, donc là on pense vraiment la diversité, mais aussi d'imaginer que cette diversité ne va pas suivre les mêmes chemins de gouvernementalité, je veux dire. Voilà. Donc je reste assez pour la lutte des classes, et je pense qu'il faut se défendre des choses comme le TAFTA et des choses comme ça, l'Union européenne, tout ça, ce sont des institutions dont il faut se méfier et qu'il faut... Mais d'un autre côté, je ne veux pas être aveuglé par ça. Et je ne veux pas être aveuglé aussi par la notion de « je pourrais faire mieux avec une page blanche ». Et donc, voilà, c'est ce que je voulais dire.
Je crois qu'il y a une réaction. Gabriel, je te passe le micro assez vite. Et Gérard Bras aussi, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir ? D'accord.
Mais... Faut juste faire gaffe, à mon avis, de ne pas ramener trop vite le compost dans l'idéalisme. Parce que c'est une notion qui est historiquement située et on ne va pas tous à la même vitesse par rapport à cette histoire-là. Et je pense que le fait de dire aujourd'hui, par exemple, même à la maison de quartier Souga, on a introduit une première brèche dans l'idéalisme des Lumières, c'est un luxe inouï qu'on a en tant qu'occidentaux, riches, hommes, hétérosexuels, enfin, après chacun coche ce qu'il faut cocher dans la liste. Et peut-être que là, il y a peut-être une manière de ne pas vous réconcilier, mais de poser le problème sur un truc où finalement la question de la nation pas devient plus très intéressante, enfin, ce qui serait moi ma position, c'est de dire que ce concept de compost, il est historiquement situé dans une période où on commence à ne plus pouvoir faire autrement que d'admettre justement qu'on vit dans un monde infiniment dévasté, en proie à des luttes de pouvoir gigantesques, et dans lequel, finalement, d'où ma question sur la rationalité. Qui, aujourd'hui, s'attribue la capacité à définir ce qu'est la rationalité ? Là, on « follow the money », comme disent les Américains.
Oui, effectivement, je suis sensible à ta remarque sur ne pas faire du compost, d'avoir du compost une vision un peu idéaliste. Moi, je ressens ça quand je t'écoute, Philippe. Je trouve que tu ne penses pas les conditions réelles d'événements qui constituent, agitent ce compost. Moi, cette image là, du compost, elle me convient assez bien. Je pense qu'on est dans un immense compost en ce moment. Par rapport à la question de Gabriel sur la rationalité, je veux dire, nous savons tous que nous sommes en train de dévaster la planète. Je veux dire, c'est pas un secret de Polichinelle. Nous le savons tous. On nous le répète. Je veux dire, on regarde un reportage à la télé, deux, trois, c'est évident, on est en train de dévaster la planète. Bon, la question, en gros, pour nos vies, ça ira, pour la plupart d'entre nous, peut-être les plus jeunes, pas, mais pour les plus vieux, on vivra avant que ce soit la totale catastrophe. Mais dans deux, trois générations, si on continue comme ça, on sait qu'il va commencer à y avoir de sacrées merdes. Ce qui veut dire, et ça... On le sait d'où ? On le sait de la part, du point de vue de nos capacités rationnelles de comprendre ce qui se passe et de prédire, sur la base de ce que l'on sait, les développements probables qui vont affecter, probables à 90%, 91%, qui vont affecter la planète au cours du siècle à venir. Ça veut dire que, rationnellement, nous savons que nous devons arrêter nos conneries. Mais on n'arrête pas. Pourquoi ? Parce que la rationalité est prise dans d'autres jeux, les jeux de puissance, les jeux de rivalité, les jeux de concurrence, et que cette rationalité de la rivalité, elle n'a aucune raison, sauf à être contrainte, de jamais s'arrêter. Pour moi, c'est absolument clair. Quiconque jouit d'une position de puissance va continuer à utiliser sa position de puissance pour accroître sa propre puissance. Là-dessus, je suis complètement obésien. Je pense que la puissance sert à accroître sa puissance et à rien d'autre, et puis que c'est un processus infini. Puis on voit ça à l'œuvre.
Vous n'êtes pas d'accord, madame ? Oui ? Pourquoi ?
T'as un micro, peut-être ?
Oui, mais...
Non, mais madame va réagir en...
Quel exemple pour me donner ? Donnez-moi un exemple.
C'est gentil ça, de refiler le bébé. Non, par rapport à la situation actuelle,
par rapport à
Est-ce que UBS a fait la moindre chose ? Oui, mais ensuite... Pardon madame, à l'intérieur de l'UBS, ce sont des individus. Et si ces individus jouent à accroître la puissance d'UBS, c'est parce que cet accroissement de la puissance d'UBS leur sert. C'est bien par rapport à leur désir d'accroissement de puissance qui participe au jeu. Je ne connais pas. Si vous me donnez un exemple, bien, mais je ne connais pas. On a déjà dépassé le temps, donc la question, c'est pas de savoir si on a plus beaucoup de temps. On n'en a plus, donc on peut continuer.
Non, mais il y a des... Il peut y avoir des exemples de personnes... Alors, peut-être que vous allez me dire l'altruisme n'est pas considérable parce qu'on peut considérer que quelqu'un qui est altruiste est quelqu'un qui veut être aimé. Alors ça, c'est effectivement une manière de voir, mais il peut y avoir des gens qui ont... développer des entreprises, qui ont des entreprises au sens large du terme, et qui ont je pense, une fibre altruiste et une vision qui n'est pas forcément la leur. Je pense par exemple aux fondations en Suisse. Alors, il y a des fondations qui ont des objectifs purement de défiscalisation, mais il y a des fondations qui ont vraiment un objectif altruiste qui n'est pas forcément celui de développer leur puissance ou de la développer surtout au détriment d'autrui. Donc moi, je pense que ça, c'est un vaste
ici,
sujet. Mais
ici,
en tous les cas, ouais. je suis pas d'accord par rapport à cette,
non,
cette conception.
J'entends. Voilà. Moi, je pense qu'il faudrait regarder dans le détail chaque fois. Pourquoi les
en
acteurs...
En tout cas, il y a une chose qui se passe, tu mentionnais les entreprises. Il y a maintenant certaines entreprises qui limitent leur marge de profit juste pour faire tourner et donc ça, c'est assez important. C'est-à-dire que la notion de maximisation du profit est en train de, elle-même, muter vers quelque chose qui serait comme une optimisation du profit en fonction de justement ce que ça implique comme coût sur la société.
Mais de nouveau, là, il faut des exemples, il faut regarder comment ça fonctionne, voir quelle est la motivation réelle, etc. C'est vraiment, aussi longtemps qu'on n'entre pas dans le détail d'un exemple, moi, je n'achète aucun de ces arguments. Vraiment. Montrez-moi un exemple précis où, effectivement, ça fonctionne à la dépuissance. J'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. Ensuite, si on me montre, peut-être que je serai comme Saint-Opa, je finirai par y croire, mais...
Pour le coup, on est à front renversé, c'est-à-dire que le pessimisme devient un optimisme angélique.
Non, non, mais...
effectivement, je reste sur la position de Spinoza. La raison est impuissante devant le désir.
Point.
Donc, savoir ne change rien. Ne change rien. Savoir, ne
mais
pas
donc,
savoir. Mais
donc, l'organisation
c'est
parfaite n'existe pas.
Évidemment.
D'accord.
Évidemment. Et donc, on n'est pas platonicien.
Ben voilà. Donc, du moment où vous acceptez qu'il y a des corps politiques qui peuvent se constituer différemment en fonction de ce que j'appelle le compost, est-ce que je devrais peut-être réfléchir pendant pas mal de temps avant de le répéter, mais avec cette espèce de On a quelque chose. Ce que je veux dire, c'est ça. On a quelque chose. Ce quelque chose peut nous permettre de faire d'autres choses. Et ce que je vois moi dans le compost, c'est la capacité de composer des corps politiques qui, s'ils suivent la logique du Conatus, ne suivent pas nécessairement la vision hobbesienne du Conatus. C'est-à-dire, je ne vais pas pousser mon Conatus jusqu'à vous massacrer.
Mais le camp politique n'est pas homogène.
Ce qui est important de voir dans la puissance du Conatus, c'est que d'un point de vue éthique et spinoziste, on peut dire que les banquiers qui ont caché leur argent au Panama ne sont pas moralement répréhensibles, puisqu'ils ont suivi simplement leur Conatus jusque là où ils pouvaient. Mais d'accord.
Le spinozisme est un amoralisme, donc ça ne me gêne pas.
Voilà, d'accord.
Non, je voulais simplement revenir sur concept, avoir une solution jésuite peut-être.
Très court.
Il faut peut-être ajouter un adjectif pour ne pas tomber dans des discussions byzantines sur c'est un concept, c'est pas un concept. Concept théorique ou concept pratique. Je prendrais volontiers la définition du concept pratique de Koselleck, synthèse d'expérience et horizon d'attente. Et dans ce cas-là, ça fonctionne comme un concept pratique ou comme un concept politique. Mmh. Donc c'est pour ça que les deux arguments, effectivement, on est devant une antinomie qui a, me semble-t-il, une solution relativement simple.
Merci. Une dernière question, une ultime question.
Une interrogation pour vous. Je me demandais pourquoi. Enfin, si tu, en fait, tu ne parlais pas de Spinoza et de sa cité idéale sous la forme d'une utopie. Et si tu le fais dans ce cas, une utopie au sens riche du terme, enfin, à Binsourd et compagnie, et dans ce cas-là, je suis prêt à te suivre. Okay, on a besoin d'utopie, c'est-à-dire quelque chose qui est radicalement autre que notre présent. Mais on sait bien que l'utopie n'est pas faite pour être un guide d'action aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre des réformes à la suite les unes des autres à partir de l'utopie, c'est plutôt pour donner un tout autre.
Oui, et en même temps, j'insiste, je pense qu'on fera mieux si on comprend à peu près ce qu'on fait. C'est-à-dire si on a un logon d'Idonaï à peu près OK. Pas parfait, mais à peu près OK.
Oui, une dernière.
J'avais une question plutôt à Philippe Clark par rapport à son concept qui me semblait... On peut prendre cette espèce d'adage qui est, apparaît-il, est professé par le féminisme américain, donc comme quoi il faut compter de manière permanente avec les troubles, avec les problèmes, de manière infinie. Mais Hugues Poltiel rappelait, on se trouve plutôt aujourd'hui dans une situation d'impasse, de cul-de-sac. Donc, est-ce que cette vision-là est progressiste, c'est consiste à dire, de toute façon, on pourra continuer comme ça, et de toute façon, on trouvera une issue, quoi qu'il arrive, ou bien est-ce qu'il faut quand même compter aussi avec une perspective qui est l'apocalypse ?
Ah, moi, je crois qu'il faut compter avec l'apocalypse. Okay. Et le problème, c'est pas de savoir s'il va y avoir la fin du monde, c'est quelle fin du monde on veut avoir.
Bon, on était parti à répondre à la question si la nation était un concept. On s'est demandé si une autre fin du monde était possible ou quel type de fin du monde on va choisir, parce que peut-être qu'on aura le choix, peut-être pas.
Peut-être que tu peux dire qu'on a échoué, mais on a bien échoué.
On a bien échoué. Mais on n'en a pas encore fini cet après-midi. Je vous propose de faire une courte pause de quoi 10 minutes et on se retrouve après pour une session cartouche où il y aura trois courtes présentations de 10 à 15 minutes. Successivement, viendront à la table Patrick Ernst pour Invention et dissolution de la nation. Voilà, en bon sportif, ils sont une accolade. Christophe Calame pour Nation et Empire et moi-même Sport et Nation. Voilà, tout à l'heure.